voix nue. Toute cette semaine, Corinne Renoux-Nativelle rencontre Daniel Pénac. Ce soir, chagrin d'école.
Bonsoir Daniel Pénac.
Bonsoir Corinne.
Vous êtes un écrivain des paradoxes. Élève malheureux sur les bancs de l'école, vous offrez à vos lecteurs des livres pleins de verve, de grâce insolente, de gouaille et de fraîcheur qui traduisent une perpétuelle enfance du regard. Vous avez sauté avec aisance de la série noire à la collection blanche de Gallimard, brouillant avec allégresse les lignes entre les genres, aussi à l'aise d'ailleurs pour parler aux enfants qu'aux adultes. Formidablement en prise avec votre époque, vous ne vous êtes jamais soucié des modes ni de l'air du temps. Vous avez fait l'éloge de la lecture alors qu'on annonçait la mort du livre, lequel éloge s'achevait sur les droits du lecteur, dont ceux intangibles de ne pas lire et de lire n'importe quoi. Intellectuel, vous avez scruté comme personne un corps tout au long de l'existence d'un homme. Discret sur votre vie privée, vous avez été propulsé sur l'avant-scène médiatique par le succès de vos livres qui se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires. Enseignant, conteur magnifique de vos propres textes en audio livré sur scène, vous portez haut l'art de l'oralité. Ce sont tous ces aspects et bien d'autres que nous allons évoquer avec vous tout au long de cette semaine. Le 1er décembre 1944, naît Daniel Pénacchioni à Casablanca au Maroc. Par quel hasard est-ce le lieu de votre naissance? D'où venaient vos parents?
Par le hasard de la guerre. Mes parents venaient de la Martinique avec l'armée américaine. Mon père allait être débarqué sur les plages du sud de la France pour bouter le nazi hors de nos frontières. Et pendant ce temps, ma mère me débarquait à Casablanca, où je suis resté 3 mois, quoi. Et je suis un fruit d'escale. Et puis ensuite, une fois les Allemands repoussés vers le nord, ma propre mère a débarqué vers le sud. J'ai passé les premiers mois de ma vie dans le petit village de Lacolle-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, d'où était originaire sa famille. Voilà. Elle-même étant moitié mocotte, moitié marseillaise, c'est-à-dire moitié toulonnaise, moitié marseillaise, et mon père moitié corse, moitié bordelais.
Et votre père est un officier de l'armée coloniale?
Alors mon père était un polytechnicien, né en 1900, hein, même. Il était né à Aurillac. C'est un détail important parce que il m'a dit « Jamais de ma vie, je n'aurai aussi froid que dans mon enfance, dans le Cantal, à Aurillac. » Il était doué en maths, un peu par hasard, n'aimait pas les mathématiques, mais comme c'est ce qu'il savait faire, il a intégré l'X. Grâce au sacrifice de son frère et de sa sœur, ce n'était pas un milieu aisé, qui se sont mis au travail pour payer ses études. Ensuite, il est entré dans l'artillerie coloniale. Et là, ça en fait un homme complexe parce que il voulait avoir chaud.
Les colonies. La motivation.
C'est ce qu'il disait en blague. En disant, si j'ai eu tellement froid dans mon enfance que je voulais aller en Indochine, etc. Mais en même temps, paradoxalement, en 22-23, il écrit une lettre à son meilleur ami, d'ailleurs, qui allait devenir son beau-frère, dans laquelle il dit « Nous ne resterons pas plus de 30 ans dans ce pays. Nous y exportons ce que nous faisons de mieux en matière de brutalité obtuse, sans aucune curiosité pour les cultures locales, millénaires, etc. etc. » L'Algérie suivra, car on ne demeure pas impunément plus de 150 ans dans un pays sans se mixer à la population, etc. etc. Et néanmoins, il est resté dans la coloniale, jusqu'au bout, jusqu'à sa retraite. Ce qui m'intriguait énormément. Je lui dis, mais comment avec ce que tu pouvais penser, comment as-tu pu supporter, enfin. Alors là, il bottait en touche, il avait beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour, même à ses dépens. Il disait, oh, que veux-tu, j'ai travaillé à l'hexagonie de l'Empire, par exemple. Dans cette phrase, l'hexagonie de l'Empire, elle était à la fois, ça faisait à la fois sourire, c'était très amer, bien entendu. Et l'autre chose, il disait, je me souviens, c'est des formules comme ça, parce que je l'avais interviewé étant adolescent, ça m'intriguait énormément, cette affaire. Un homme aussi cultivé, aussi lucide, aussi bon. C'était un homme d'une très grande bonté. Qu'un type pareil ait pu rester, d'abord militaire toute sa vie, et qui plus est dans la coloniale, ça m'a toujours troublé. Et une de ses explications, mais là aussi c'était en blaguant, il disait, écoute, l'armée, on pourrait définir l'armée comme étant l'usage raisonné de la violence. Connais-tu quelqu'un de plus raisonnable que moi ? Et voilà. Et on s'en arrêtait là. Car ça restait un homme du 19e siècle, ma mère aussi, une femme du 19e siècle, et ce n'étaient pas des gens qui se livraient à la confidence. On ne se faisait pas de confidence. Je dis des hommes du 19e siècle, si on veut bien admettre que le 20e siècle a commencé en 18, quoi, après la guerre de 14. Hein, c'était réellement des gens du 19e siècle, qui n'étaient pas... Par exemple, ils étaient extrêmement bons sans être sentimental, particulièrement. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'étreintes, pas beaucoup de paroles tendres entre nous. C'était pas le genre de la maison. Ça rigolait plutôt. Voilà.
Vous dites que c'était des barons aimants à la mode de l'époque, c'est-à-dire, c'est ça, peu expansif.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était ni dans le psychologique, ni dans l'affectif. On était dans le « ça va de soi ». Si j'avais par exemple demandé à ma mère « est-ce que tu m'as voulu ?» ce qu'on fait aujourd'hui, ça l'aurait sidéré, ça l'aurait absolument sidéré. C'est une question qui était même pas envisageable. Et je vois bien quand je discute avec des adolescents, même des amis, on avait l'impression avec des gens comme mon père et ma mère que Freud n'avait pas encore inventé le papa ni la maman. Et quand je vois la place que prend aujourd'hui dans les préoccupations des uns et des autres la psychologie filiale, c'était pour mes parents du chinois. Et dans la relation que mes frères et moi entretenions avec eux, c'était pareil, quoi. Il y avait pas de...
Et votre mère, quelle personnalité avait-elle ?
Alors ma mère, c'était une jeune fille en colère. Elle avait... un nombre considérable de choses qui l'énervaient, et elle manifestait son énervement. Par exemple, elle pouvait faire un dîner magnifique, et vous aviez des invités qui la complimentaient, bien entendu, en disant « c'est absolument exquis », etc. Et elle pouvait tout à fait répondre « oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et si vous saviez ce que ça m'emmerde, elle pouvait faire ce genre de choses. » Et elle avait ce côté-là. Et l'autre aspect de sa personnalité, c'est que toute grognonne qu'elle soit, elle avait le goût du fou rire. Et une des façons de la faire rigoler, c'était d'aller au-delà de sa fureur, en lui disant « t'as raison ». « Ah, t'as raison ». Non, c'est même pire que tu le penses. Et là, quand elle sentait qu'on l'a dépassé dans sa propre logique de fureur, elle rigolait. Et elle riait, mais vraiment de bon cœur. J'ai des souvenirs de fou rire inouï avec ma mère, inouï. C'était une femme qui n'avait pas fait d'études. On l'avait retirée, parce que, là encore, 19e siècle, les filles, ça fait pas d'études. On les entraîne à tenir le ménage, pas d'études. Donc on l'avait retirée à peu près en troisième. Elle était allée quand même à la, je crois que c'était la Légion d'honneur. Et c'était amusant. Elle racontait de façon assez amusante la prétention que ces dames avaient d'apprendre à ces jeunes filles le piano dans des salles où il y avait 15 pianos. Tout le monde travaillait en même temps. Des choses comme ça. Donc elle n'avait pas fait d'études. Et un jour, vous allez voir comme on est bête. Un jour, je la surprends en train de lire l'Ulysse de Joyce. Et spontanément, comme ça, je lui demande « Ah, tu lis Ulysse ?» Oui, oui, elle était sur son canapé, elle lisait Ulysse. J'ai comme un crétin, je lui dis « Et tu aimes ça ?» Elle dit « Mais bien sûr, oui. » Et toujours, ça c'était le professeur en moi. L'énigme de l'intérêt qu'une... femme qui n'était pas du tout une intellectuelle puisse trouver. Et pourquoi aimes-tu? Et elle lève les yeux du livre, elle me dit, pour une fois qu'en voilà un qui écrit comme on pense. Et fin de la leçon de littérature, c'était l'exacte réponse qu'il fallait faire. Elle faisait ça, j'ai aussi des souvenirs merveilleux et trop rares avec elle. J'étais adolescent à La Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Et à la fin de mon adolescence, j'avais mon permis de conduire, je l'emmenais au cinéma, à Nice. Elle adorait ça. Et je l'emmenais voir Bergman, les films de Bergman, les films de Bergman de l'époque, hein. La Honte, des choses comme ça, des films qui étaient extrêmement noirs, et aussi le cinéma japonais. Et elle, qui n'était absolument pas cinéphile, nous ne parlions jamais culture à la maison, ni d'ailleurs avec elle, ni littérature, ni cinéma. Elle adorait absolument ces séances. Elle en revenait très rêveuse, très pensive, très concentrée. Elle m'intriguait beaucoup et j'aimais bien. On s'entendait bien.
Et vous êtes le quatrième garçon de la fratrie, le dernier. Pour vous, la place du petit dernier, Daniel Pénac, n'a pas forcément été simple? Vous étiez un petit peu écrasé par les figures des grands frères?
Non, c'était pas tellement ça. Ils étaient beaucoup plus grands que moi. Ils avaient 10 ans de plus que moi. Donc là, il n'y a pas de rapport.
Pour les aînés.
Et j'avais, entre les deux qui avaient 10 ans de plus que moi et moi-même, j'avais mon frère Bernard, qui lui avait 5 ans de plus que moi, et que j'ai perdu récemment. Et quelques semaines avant sa mort, nous promenions ensemble le long du Loup, qui est la rivière du village. Et je lui demande, je lui dis, est-ce que tu te souviens d'une engueulade entre nous, de notre enfance à aujourd'hui? Même pour rien, pour des jouets, pour des fringues, pour... Et on a eu beau remonter jusqu'au bout, enfin, nous ne nous étions jamais disputés. Et je crois que, et c'est un garçon que j'ai absolument adoré. J'avais pour lui une adoration. Et là encore, elle était fondée sur quelque chose que j'ai toujours admiré chez les autres, c'est, enfin, même pas admiré, mais ressenti profondément, c'est la bonté alliée à la lucidité. Le degré zéro du cynisme, l'intelligence des situations, l'intelligence des êtres, comme ça, avec une acceptation de l'autre tel qu'il est, sans la moindre illusion sur ce qu'il est. J'ai adoré ça. Ça, c'est un des traits de caractère, une des modes de personnalité qui me fascine le plus au monde. J'adore ça. Il faut une sacrée force de caractère, parce que les abrutis sont nombreux, les méchants sont innombrables, les méchants abrutis sont incalculables, mais on a quand même envie de leur rentrer dans l'art. Pas lui. Et il m'a beaucoup, énormément enseigné dans ce domaine. En fait, ça a été lui, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, tous, c'était mon éducateur. Et c'était l'être le plus discret du monde avec ça, sans y toucher.
Parce que vous avez dit de lui qu'il vous avait élevé.
Il m'a élevé, oui. Si je devais résumer cette enfance, et singulièrement le bonheur de cette enfance, en dépit de tous les problèmes scolaires, etc., c'était vraiment la proximité de ce frère que j'adorais.
Et vous, quel enfant vous étiez? Solitaire, joueur, sportif?
Non, moi j'avais cette particularité d'être absolument nul dans l'apprentissage scolaire, d'une nullité parfaitement inexplicable, au moins sur le plan psychologique. J'étais pas un enfant battu, j'étais pas un enfant affamé, j'étais né pratiquement dans une bibliothèque. Donc, d'où venait cette inhibition de départ, je n'en sais rien.
Dans Chagrin d'école, néanmoins, vous parlez de la poubelle de Djibouti
comme une explication.
Oui, c'est Bernard qui
racontait ça en se marrant. Il me disait, moi, c'est parce que t'es complètement con, parce que t'es tombé dans la poubelle de Djibouti. Et c'était vrai qu'à 5 ans, je suis tombé dans la poubelle municipale de Djibouti, qui était, c'était un truc dégueulasse, bien entendu, avec 50 degrés ou 60, même le soleil tombant pile là-dedans. Et puis, moi, ça n'en est pas aperçu, donc j'ai failli claquer là-dedans, j'ai une septicémie. Et quand je disais à Bernard, mais dis-moi, mais pourquoi suis-je si con scolairement? Il me disait, passe, cherche pas, t'es tombé dans la poubelle de Djibouti. Alors c'était devenu un leitmotiv entre nous. Mmh. Ça nous amusait beaucoup. Mais c'était pas rien, parce que, après donc septicémie, etc. Donc c'était le début de la pénicilline. Et alors, on m'a fichu des... pendant un an, je sais pas combien de temps infini. Piqûre de pénicilline, c'est comme si on vous enfonçait du plomb fondu dans les fesses. Et voilà, c'était voilà un souvenir. Vous voulez un souvenir? Je vois que vous aviez envie d'un souvenir malheureux d'enfance. Ben en voilà un.
Ah, puis on va en avoir d'autres avec votre scolarité, effectivement, qui était très chaotique.
Mais la scolarité, c'est autre chose. L'enfance, je ne lie pas mon enfance à ma première expérience sociale. La scolarité, c'est la première expérience sociale. Dès qu'un gosse franchit la porte de l'école, il entre dans sa première expérience sociale. Celle-là, elle était absolument désastreuse. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais aimé. Mon frère m'aidait à faire mes devoirs, me faisait apprendre mes leçons. Je les lui récitais très très bien. Et le lendemain matin, pas un mot devant le prof, coincé à mort. Je savais que je la savais, puisque je lui avais récité cette foutue leçon. Et le lendemain, quand j'entrais dans le social, donc, quitter la famille, bon, terminé, inhibition absolue.
Mmh. Et selon la légende familiale, Daniel Pénac, vous avez mis un an pour assimiler la lettre A.
Oui, ce qui évidemment terrorisait ma mère, et faisait rigoler mon père qui disait « Oh !» Non, pas d'inquiétude à avoir, dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet. Lui avait cette élégance-là, hein, il bottait en touche avec les angoisses que lui causait le petit dernier. Alors, il en a sorti quelques-unes bien bonnes, comme ça, quand j'ai eu ma licence, par exemple, c'était en 68. Il m'a dit, tu sais, je suis très inquiet, Daniel. Il t'a fallu une révolution pour la licence. Doit-on craindre une guerre mondiale pour l'agrégation? J'ai dit, mon petit papa, n'aie pas peur. D'abord, en matière de guerre, tu as assez écopé comme ça. Et je vais t'épargner une troisième guerre mondiale en ne présentant pas l'agrég. Ah, ça c'est un soulagement immense.
Pour la planète entière.
Non, vous devez me remercier pour ce...
Merci Daniel Pénac. Dans le livre donc Chagrin d'école qui est paru en 2007, vous dites la douleur du cancre, mais aussi celle de ses enseignants, des parents. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous ressentiez enfant, sur ses difficultés, les formes qu'elles prenaient?
J'avais peur. Tout ça est une affaire de peur, Corinne. C'est aussi simple que ça. Mais vraiment, hein, il n'y a pas d'autre élément que la terreur. Bon, alors, de mon temps, comme disent les vieux... C'était tout simplement... Mais c'est la même chose aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. C'est tout bêtement la peur de ne pas répondre juste à la question posée. Dès lors que on ne répond pas juste à la question posée, et que la réponse est une immédiate réponse sous-tendue par le désir d'évaluation, on est foutu. On est absolument foutu. Alors, d'abord, on a déçu l'adulte qui est en face de soi. Ensuite, on rentre à la maison, et à la maison, on vous dit « ça s'est bien passé à l'école ?» On répond bien entendu « oui » pour rassurer les parents. Autrement dit, nous voilà déjà dès le départ, la première conséquence de cette peur, c'est le mensonge. On ne fait pas le devoir suivant. Le prof vous demande pourquoi vous n'avez pas fait le devoir suivant. Vous répondez que c'est parce que le métro s'est retourné. On rentre à la maison. Alors, ça s'est bien passé? Oui, j'ai... Bon. Et on est donc dans cette espèce de peur. Peur d'être jugé, d'un côté. Peur de décevoir, de l'autre. Cette peur engendre de la honte. Cette honte est très peu supportable. Et elle engendre elle-même des stratégies de défense. Alors là, c'est n'importe quoi. La violence physique, si on vous emmerde trop sur ce terrain-là, si les petits copains vous cassent trop les pieds sur ce terrain-là, la violence physique pour se venger de ceux qui comprennent là où nous ne comprenons pas, la fugue, le vol domestique, etc., etc. À ce moment-là, à partir d'ici, plus rien n'est contrôlable. Et cette affaire de peur n'est pas seulement, évidemment, la peur de l'enfant. Il n'y aurait pas de problème scolaire si seuls les élèves échouaient. On considérerait qu'ils échouent et on ferait avec ceux qui réussissent. Je vous jure que ça poserait de problème de conscience à personne. Le problème, c'est que tout le monde a le sentiment d'échouer. Le professeur dont 40% de la classe est minable se sent minable. Ça réagit sur sa propre famille, sur les rapports de tension qu'il a avec ses propres enfants, avec les résultats scolaires, etc., etc. La peur de la famille de l'élève, du mauvais élève, ma famille en l'occurrence, enfin, ma mère, quand elle voyait mes résultats absolument lamentables, ne se faisait de mon avenir que l'image d'un présent aggravé. C'est ça la peur chez une mère, c'est il ne va pas y arriver et donc ça ne va pouvoir que s'aggraver. Et pour peu que le gosse transite par la fugue, le vol domestique, etc., elle le voit immédiatement en gangster. Encore, s'il a réussi dans sa branche, gangster. Mais autrement, non. Minable, petit, petit, malhonnête, etc., etc. Donc la peur des parents, la peur des profs et la peur de l'enfant. Alors de quelle nature est cette peur? Au fond, la peur de répondre faux à la question que va vous poser l'adulte, c'est une peur de ne pas complaire, de ne pas complaire, de ne pas plaire, et du coup, de ne pas se structurer dans l'admiration minimum nécessaire. Les gosses ont besoin de minimum de regards, si ce n'est affectueux, du moins apaisé sur eux-mêmes, qu'au moins ils ne posent pas de problème. Ben non, voilà qui en pose. Et en plus de ça, il déconne, il se fait remarquer à droite, à gauche, etc. Je me sentais tellement avili par cette affaire sociale désastreuse qu'était mon apprentissage scolaire que j'étais persuadé qu'on ne m'aimait pas. Et fort de cette certitude, voilà que je perce le coffre-fort des parents. Dans ces milieux de la moyenne bourgeoisie, il y avait des petits coffres-forts dans les maisons. Et voilà que je trouve la combinaison, j'ouvre, après avoir essayé des nuits et des nuits, j'ouvre le coffre-fort des parents et je fauche de l'argent pour leur faire des cadeaux. Et je me souviens très bien, et pour faire également des cadeaux, un cadeau d'anniversaire, un salopard de professeur qui me torturait. Vous voyez jusqu'où, ça c'est très troublant. C'est pour ça que, pendant toute ma scolarité, j'ai porté un soin extrême à cette histoire de peur, de dévaluation de soi, provoquée par la peur du cancre. C'est quand même extrêmement tordu, cette affaire de coffre-fort. Et elle m'a valu ensuite une enfance et une adolescence de pensionnat. On m'a foutu en tôle, quoi, en quelque sorte.
Ouais, ça a été la conséquence.
Mais c'était très bien. Parce que quand vous êtes pensionnaire, vous n'êtes pas entre deux interlocuteurs, vous n'êtes pas entre l'institution et la famille. Vous n'en avez qu'un, c'est l'institution. Et ça, c'est un grand repos pour le cancre. Vous n'avez qu'un mensonge à fournir. Et il est difficile à faire, puisque vous êtes constamment sous les yeux de l'institution. Donc vous pouvez difficilement mentir. Et vous n'avez plus à mentir à votre famille. Donc, vous économisez une grande énergie mentale. Et avec un peu de chance, si vous tombez sur de bons professeurs, ce qui m'est arrivé, cette énergie mentale économisée est investie dans l'apprentissage culturel. Et évidemment, ensuite, quand je suis moi-même devenu professeur, j'ai théorisé pour moi-même là-dessus. Et j'ai donc travaillé à ce que mes élèves n'aient pas peur de la transmission du savoir. Les méthodes les plus simples et les plus vieilles, c'est la maïeutique, bien entendu. Je cherchais d'abord à savoir ce qu'ils savent, mais pas sur le mode de l'évaluation, sur le mode de la curiosité, comme ça. Voilà ce que tu sais, voilà ce que je sais. Voilà. Bon.
Vous étiez un élève en difficulté, Daniel Pénac, mais avec cette particularité d'être un grand lecteur, passionné de lecture.
Oui, mais c'était pas du tout une époque où on considérait la chose comme une prouesse. Moi, je suis entré dans la lecture comme on entre en distraction, c'est une façon de me distraire. Je lisais quand on m'a mis pensionnaire. Et il était tout à fait normal qu'un enfant de 12-13 ans s'envoie tout Alexandre Dumas. Vote pas tout, les Trois Mousquetaires, Vicomte de Bragelonne, 20 ans après. C'était pas une prouesse. C'était un refuge.
Et même une façon de braver un interdit.
C'était une façon de braver un interdit en ce sens qu'on nous interdisait de lire à l'étude. Parce que ça nous empêchait de faire nos devoirs et d'apprendre nos leçons. Quand je dis aux gosses d'aujourd'hui qu'il fut une époque où on nous interdisait de lire, parce que je le résume comme ça, c'est un petit schéma. Ça les fait... ça. Oh, c'est pas vrai, vous en aviez de la chance. On nous interdisait de lire. Vous voyez, la relativité des points de vue. Ah oui, alors pendant les études, donc je lisais. Voilà. La situation était la suivante. Je lisais le soir en cachette dans mon lit, Les Trois Mousquetaires, par exemple. Et évidemment, je m'endormais sur ma lecture. Ce qui est une façon absolument délicieuse de s'endormir. S'endormir sur une lecture qu'on aime, ah ça, je ne connais pas de meilleur endormissement, peut-être après l'amour, peut-être. C'est aussi bon de s'endormir. Après une lecture qu'on aime, c'est un délice total. Donc je m'endormais. Et le lendemain, évidemment, je n'avais qu'une envie, c'est de reprendre ma lecture. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit. Et alors, à l'étude, je m'amusais à raconter moi-même la suite. La suite d'Alexandre Dumas. Voilà. Évidemment, je l'écrivais, cette suite, évidemment. Les pions pensaient que je faisais mes devoirs. Ce n'était pas vrai. Je lisais. Mais je lisais en écrivant.
Donc l'écriture, au départ, était le prolongement de la lecture, du plaisir de la lecture.
Oui, mais je crois que c'est assez fréquent chez les écrivains européens. Ils écrivent parce qu'ils ont lu. Aux États-Unis, vous avez énormément d'écrivains qui écrivent parce qu'ils ont vécu. Jack London et d'autres. Chez nous, vieux continent culturel, notre écriture est le produit de nos propres... pas de nos propres lectures d'ailleurs, de notre activité de lecteur. C'est une activité qui se métamorphose. C'est pas nécessairement un substrat culturel qui fait qu'on va se mettre à écrire. Mais c'est le fait d'avoir physiquement lu, d'avoir l'acte. Il y a quelque chose dans l'écriture, chez moi en tout cas, qui relève de l'acte de lire.
Merci beaucoup Daniel Pénac. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Corinne Renoux-Nativelle avec Daniel Pénac. À voix nue. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Jérémy Tuile, réalisation Doria Zénine, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.